Voilà, bonjour tout le monde. Donc, je voulais commencer en vous disant, en attendant que Michel puisse partager l'écran, qu'il est important que vous réagissiez, parce que pour moi, c'est très difficile de réaliser qu'est-ce qui passe comme message. Tiens, c'est bizarre, j'avais pensé que j'avais fait la modif de ce truc-là. C'est pas le premier slide, il part de la semaine prochaine alors que je voulais dire cette semaine. Oui, bon, j'ai oublié de changer le titre. C'est cette semaine évidemment qu'on va voir ça. Slide suivante alors. Donc, je reviens sur quelque chose qu'on a vu la semaine dernière. Autre chose qui est importante, c'est pour comprendre la physique, c'est quand même une science expérimentale. Alors, c'est ce que je veux souligner. Dans ce slide-là, où j'ai mis en grisé ce qui est moins important. Donc Galilée nous dit en blanc, rien ne nous dit que le bateau est immobile ou bien glisse paisiblement à vitesse constante sur une mer d'huile. Et donc Galilée nous dit que si on lâche une clé à molette en haut du mât, elle tombe exactement au pied du mât. Après, je vous ai parlé d'un petit piège, c'est que comme la Terre tourne sur elle-même, il y a un effet supplémentaire, mais il est très petit et ça ne change pas le principe de Galilée. Alors, à droite, j'ai ajouté quelque chose, j'ai mis qui a justement bien fait ça, c'est-à-dire ce que je suggérais, si ça vous laisse perplexe, vous pouvez vérifier, c'est-à-dire vous lâchez devant vous une petite pierre alors que vous courez et vous regardez où elle tombe. Et vous allez voir qu'elle tombe à vos pieds et pas derrière vous. Alors, je suis curieux de savoir s'il y a des gens qui se sont dit, tiens, je vais le faire, ou pas. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui l'ont fait? Donc vous mettez votre micro, puis vous me dites oui si vous l'avez fait, et puis c'est pas la peine de faire l'histoire de lever de main ou je ne sais quoi, vous pouvez lever la main aussi, mais je sais pas comment ça marche, alors on va pas comprendre. Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait? Alors il y a Michel, non c'est Michel qui partage, c'est juste pour ça qu'il est en vert. Donc personne ne l'a fait.
Ça, oui. Non, mais je l'ai pas fait. J'ai du mal à courir maintenant. Un bac, c'est pas trop long comme histoire.
Non, mais on peut le
Oui,
faire en.
moi j'ai déjà fait, pas avec une pièce, mais avec autre chose, et effectivement, ça marche.
Très bien.
Si le mot, ben voilà, attendez ma confirmation, je le dis, ça marche.
Ouais. Alors, c'est intéressant de voir que finalement, il y a très peu de gens qui se sont dit, tiens, je vais le faire. Et pourquoi c'est intéressant de le faire et pourquoi c'est intéressant que très peu de gens l'aient fait? C'est que justement, Monsieur Aristote, lui, disait. La pierre tombe exactement à la verticale de l'endroit où on la lâche. Elle ne se souvient pas qu'elle était tenue par une main qui avançait, etc. Et dès que la main lâche, eh bien. Alors, évidemment, il y avait un petit problème, c'est que quand on jetait une sagaie, une lance à la guerre, ou qu'on décochait une flèche avec un arc, eh bien, la flèche ne s'arrêtait pas immédiatement dès qu'elle avait quitté l'arc. Et la lance non plus ne s'arrêtait pas immédiatement. Alors, après, on a un petit peu élaboré en disant que il y avait une sorte de mouvement qui se transmettait par l'air ou je sais pas quoi, enfin un truc bizarre, puisqu'on n'imaginait que des interactions de contact à l'époque. Et puis ensuite, on a inventé une sorte de mouvement qui s'épuisait, qui était impulsé puis qui s'épuisait, qui rendait plus ou moins compte de la réalité, c'est-à-dire l'effet dû à la gravité qui faisait tomber la flèche ou la lance, ou bien aussi l'effet de frottement dans l'air qui ralentit les choses. Mais quand on lâche une pierre en marchant, rien ne, aucun frottement de l'air ne peut ralentir cette pierre le temps qu'elle tombe, et elle tombe bien à nos pieds. Il y a d'autres choses comme ça qui ont été dites par Aristote, on le verra plus tard hein, dans une autre chronique. Mais c'est la chose intéressante, c'est quand même, je le mentionne, une grosse pierre tombe plus vite qu'une petite pierre. Et là aussi, n'importe qui peut ramasser deux pierres, une petite et une grosse, et voir si ça marche, ce que dit Aristote. Eh bien, pendant des milliers d'années, enfin pas des milliers d'années, j'exagère, disons pendant 2000 ans pratiquement, personne n'a ramassé de pierre. Ou alors, s'il y a des gens qui ont ramassé une pierre ou deux pierres pour essayer de vérifier ce que disait Aristote, ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas, comme disait Aristote, et ils ont dû prendre peur. se sont dit « Oh là 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 là, je vais m'attirer des ennuis. » Ou bien ils se sont dit « Je ne sais pas faire comme il faut, etc. » Mais la vérité, c'est que essentiellement, quasiment personne n'a vérifié. Or, la physique est une science expérimentale. Donc, si c'est une science, il faut vérifier. Et si c'est expérimental, il faut vérifier que ça marche. Alors, je me suis pris au mot, c'est-à-dire que ce matin, j'ai fait une expérience, c'est aussi pour ça que j'étais un tout petit peu à la bourre, et j'ai pris quelques échantillons de l'expérience pour vous montrer si ça marche ou pas. D'ailleurs, au début, ça ne marchait pas, et je vous expliquerai aussi pourquoi, parce que quand ça ne marche pas, c'est aussi intéressant que quand ça marche, parfois même encore plus. Alors, mais ce n'est pas lâcher une pierre en marchant que j'ai fait comme expérience, vous allez voir. Donc, slide suivante. Donc, aujourd'hui, on va revenir sur ce qu'on a vu la semaine dernière, parce que je suis sûr que ça a laissé un certain nombre d'entre vous perplexes. Et là, je tiens à dire que c'est vraiment important que vous me fassiez un feedback. J'ai d'ailleurs un petit projet avec Magali de mettre sur pied un questionnaire très léger qui nous permettra, si vous voulez bien y répondre, d'avoir un petit feedback et de savoir qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui ne passe pas, qu'est-ce qui est trop simple, trop compliqué, etc. Pas assez détaillé, au contraire trop. Mais je sais qu'il y a des gens qui se sont dit « Tiens, c'est bizarre, je ne vois pas trop pourquoi, pourtant ce n'est pas ma perception, etc. » Mais qui ne se sont pas exprimés. C'est dommage. Parce que c'est aussi comme ça que la science fonctionne, c'est par discussion, contradiction, raffinement des raisonnements, des expériences. Et puis, le bon sens et la réalité ne font pas toujours bon ménage. Sinon, les prestidigitateurs n'auraient pas de métier, enfin, n'auraient pas d'audience. Et la nature est parfois... se comporte parfois comme un prestidigitateur. Alors, le principe de relativité, il a 400 ans, et il y a encore beaucoup de gens qui sont perplexes vis-à-vis de ce principe de relativité. Et c'est une majorité de gens sur Terre. Une majorité de gens vous dira que l'objet ne tombe pas en même temps que vous, il ne vous suit pas en tombant. Et pourtant, c'est un outil à la fois très pratique et très puissant. Alors, on va voir, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il y a de commun entre le service de Nadal au tennis, le swing de Tiger Woods au golf, et le coup de batte de baseball du fameux Babe Ruth, qui a fait je ne sais combien de centaines de home runs. Et puis, quand on pousse un tas de poussière avec sa balayette pour mettre la poussière dans la pelle avant de l'acheter dans la poubelle, qu'est-ce qui se passe aussi ? Parce que finalement, pousser un tas de poussière ou taper dans une balle, c'est en physique un choc. C'est-à-dire qu'il y a un objet qui est en mouvement, ici c'est la balayette, et un objet immobile qui est le grain de poussière. Et le grain de poussière, il est mis en mouvement par le choc, l'interaction entre la balayette et lui-même. Donc, encore une fois, le principe de relativité... On ne sait pas si on est en mouvement rectiligne uniforme ou bien si on est immobile. Et le principe d'inertie, qui est une façon plus moderne par Newton de dire à peu près la même chose, c'est que tout corps, s'il n'est soumis à aucune force extérieure, persévère dans son repos, dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme. Alors, Michel, est-ce que tu peux passer à la slide suivante ? Donc, quand on pousse un tas de poussière avec sa balayette, comme je disais, on lui communique une certaine vitesse avec le balai, et c'est la vitesse du balai. Alors, c'est le minimum qu'on puisse faire quand on interagit avec la poussière. On ne peut pas lui communiquer une vitesse inférieure à la vitesse du balai, ou alors votre balai est bon pour la poubelle, c'est-à-dire qu'il lui manque énormément de poils, et que la poussière passe au travers. Ça arrive aussi. Hein. Mais à ce moment-là, il n'y a pas d'interaction. Donc le minimum, on est bien d'accord, j'espère tous, dans le cas d'un choc, c'est la vitesse de l'objet qui est en mouvement, qui va communiquer au moins le même mouvement, la même vitesse. Donc si vous tapez au tennis avec une balle très molle, une très très vieille balle, toute ramollie, ou une balle en mousse très molle, ou un objet qui n'est pas du tout fait pour jouer au tennis, comme par exemple une tomate bien mûre, eh bien ça ira se coller à la raquette, et donc l'objet n'ira pas plus vite que la vitesse de la raquette. Et même si M. Nadal, c'est lui qui tape dessus à 100 à l'heure, eh bien l'objet n'ira pas plus vite que 100 à l'heure. Et on n'est pas plus malin que l'homme préhistorique qui a inventé le propulseur, parce qu'en fait, on ne se sert que d'un seul effet ici, qui est déjà très bien, hein, c'est que on propulse l'objet avec un effet de levier, puisque la raquette a une certaine longueur qui allonge le levier du bras. Le levier naturel du bras, la main est au bout du bras, ça nous fait un effet de levier. Si on ajoute la longueur de la raquette ou la longueur du propulseur, on ajoute un effet de levier. Et pour la même rotation, hein, la même vitesse de rotation au niveau de l'épaule du bras, eh bien, le bout du propulseur ou le bout de la raquette va plus vite que la main. S'il y a quelqu'un que ça... faut pas hésiter à m'arrêter, à poser de questions. Donc ça, la physique nous dit la vitesse minimum en cas de choc, c'est la vitesse de l'objet en mouvement, par rapport au choc d'un objet en mouvement sur un objet immobile. Alors, on passe au suivant. Maintenant, on va faire une expérience, et voici les protagonistes de l'expérience. Donc, il y a un gobelet qui rebondit bien. Donc, c'est un précieux gobelet, parce que pour avoir un gobelet comme ça, il faut aller à Liverpool et aller dans le café, le Fab Four Café. Et donc, on peut à ce moment-là garder son gobelet précieusement. Et puis, une casserole qui a comme seule propriété d'être nettement plus lourde que le gobelet, surtout comme le gobelet est vide. Alors, si vous êtes très attentif, vous remarquez qu'en haut à droite du gobelet, j'ai mis un petit scotch noir pour en fait boucher l'endroit où on boit son café, de façon à ce que le gobelet soit quasiment hermétique, donc il rebondit un petit peu comme un ballon. Et slide suivante. Alors ça, en fait, c'est un film, mais ça ne marche pas parce qu'on n'est pas dans PowerPoint. Donc, slide suivante. Voilà. Alors donc, ici, on voit la casserole hein, que j'ai accrochée au bout d'un filin et que je fais balancer. Et donc, la casserole se propulse quasiment horizontalement par rapport au sol, au carrelage que l'on voit ici. Et le gobelet est posé au bord d'un... le disque double des Beatles pour rester dans la même le disque bleu pour rester dans la même tonalité des Fab Four. Donc slide suivante. Voilà. Ah, donc elles sont pas exactement alignées, désolé. Donc slide suivante. Ah ouais non. Bon, tu es allé assez... Voilà. Bon, tu es allé vite, ouais, mais bon, ok, on peut revenir un peu en arrière. Comme ça, ça fait un petit film.
Donc là, tu veux voir...
En arrière, slide après slide.
Ah, d'accord. Attends. Ah, ok. D'accord. Alors, boum.
Voilà, donc là, on voit que Mais tu peux t'arrêter à chaque slide ?
Ça va.
Merci. Donc là, on voit la casserole qui est un peu floue parce qu'elle a une certaine vitesse. Et là, elle est en train de choquer le gobelet. Et on commence à voir qu'à droite du gobelet, il y a une petite trace. Hein. Donc au cours de la photo de chacune des frames, hein, prise par la vidéo de mon téléphone, au début, le gobelet n'est pas encore en mouvement. Mais à la fin de la photo... À la fin de la pause, le gobelet commence à être en mouvement. Donc, slide suivante. Voilà. Et qu'est-ce qu'on constate ? On constate que, comme pour Nadal, la trace laissée par le gobelet est beaucoup plus longue, parce que là, le choc a déjà eu lieu, donc le gobelet est en mouvement. Et on voit que la trace laissée par le gobelet est beaucoup plus longue que la trace laissée par la casserole. Alors, je parle de la trace en plus de la taille de la casserole, hein, et de la trace en plus du gobelet. Donc le gobelet se meut beaucoup plus vite que la casserole. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? J'espère. Si c'est pas clair, il faut prendre la parole et me demander des détails. Parce que ça, c'est une vraie manip, c'est important de comprendre ce qui se passe, quoi. Slide suivante. Donc là, on a bien confirmation que le gobelet va nettement plus vite que la casserole, puisqu'il s'est éloigné de la casserole. Il n'y a aucune intervention de mes mains ou de quoi que ce soit, c'est un vrai film, je vous donnerai le film aussi. Et je ne sais pas s'il y a encore une slide là-dessus. Non, après c'est fini. Donc revenons là, voilà, revenons là. Je finis le commentaire là-dessus. On a bien observé un choc. Alors après j'ai fait une autre petite expérience, mais je n'ai pas eu le temps, puis ce n'est pas la peine, je peux juste vous dire le résultat. On observe bien la chose suivante, c'est que le gobelet rebondit sur la casserole qui est bien plus lourde que le gobelet, ce qui fait que ça ne ralentit pas la casserole dans son trajet. Et le gobelet acquiert une vitesse qui est supérieure à celle de la casserole et proche du maximum théorique, qui est deux fois la vitesse de la casserole. Alors si le gobelet était tout mou, on obtiendrait en effet seulement la vitesse de la casserole ou à peine plus. Donc c'est ça qui m'a pris du temps ce matin, c'est que j'ai pris d'autres objets avant de penser à ce gobelet, et j'ai constaté qu'en fait ces objets étaient relativement mous, même s'ils étaient en métal ou quoi que ce soit, ils ne réagissaient pas du tout avec un excellent rebond. Donc du coup, ils faisaient pratiquement comme de la poussière, c'est-à-dire que ils suivaient la casserole, ils étaient poussés par la casserole, mais ils n'allaient pas plus vite que la casserole. Donc j'étais embêté, je me disais, qu'est-ce qui se passe? Et puis j'ai vérifié tout simplement en faisant la chose suivante, c'est que j'ai laissé tomber les objets sur mon carrelage. Et j'ai vu qu'en effet, le rebond était « minable », entre guillemets. Alors c'est une bonne façon de savoir si un objet est très élastique et donc est un bon candidat pour ce genre d'expérience, hein, c'est vous laisser tomber sur un carrelage. Alors si vous faites ça avec une pièce de monnaie et qu'elle tombe bien verticale, vous allez voir qu'elle va rebondir très haut. Si vous faites ça avec une bille en verre, les billes pour jouer dans la cour de récré, ça va très bien marcher aussi. Vous avez probablement tous eu l'expérience au moins une fois de faire tomber un de ces verres en pyrex, ces verres tout arrondis là, qui à la cantine. En tout cas dans notre enfance il y en avait beaucoup, hein, et qui ne se cassent pas ou rarement, mais quand ils tombent, ben, ils rebondissent très haut, et puis du coup ils rebondissent plein de fois et ça fait un bruit phénoménal. Bon, ben, c'est la même chose, hein, ce sont des objets très durs et qui sont très élastiques et qui rebondissent très bien. Donc voilà, j'ai vérifié que ce gobelet aussi il rebondissait très bien. Il rebondit pas parfaitement, mais il rebondit très bien, donc ça marche bien. Alors slide suivante. Alors la semaine dernière, je vous ai expliqué qu'avec un changement de référentiel, c'est-à-dire en se positionnant par rapport à la casserole, on imagine un petit lutin malicieux qui est à l'intérieur de la casserole, qu'est-ce qu'il voit? Lui, il voit arriver un gobelet qui vient le taper lui-même frontalement. Puisque pour lui, il ne sait pas qu'il est dans une casserole qui avance. Lui, tout ce qu'il voit, c'est qu'il voit un gobelet qui s'approche de lui. Et comme le gobelet rebondit sur la casserole, eh bien, il repart en arrière. Donc, en faisant le changement des référentiels, on se rend compte que, dans notre référentiel, eh bien, comme la casserole va déjà à une vitesse V, eh bien, le rebond par rapport à la casserole lui donne une vitesse de V, mais comme la vitesse de la casserole, c'est déjà V, eh bien, le gobelet il prend une vitesse égale à 2V. Ça, c'est si le rebond est parfait. Mais la question suivante qu'on peut se poser, c'est « Ok, d'accord, c'est ce que nous dit Galilée, mais qu'est-ce qui se passe au niveau justement du choc quand les deux objets interagissent ?» Donc c'est pour ça que j'ai repris une slide de la semaine dernière, en la modifiant un petit peu, avec les wagonnets qui roulent sur des rails de façon extrêmement bien huilée, des wagonnets de mine. Donc ça n'a pas tellement d'importance qu'ils soient remplis de charbon, etc. Mais en tout cas, c'est deux wagonnets identiques. Et cette fois-ci, on a ajouté au système un ressort puissant, un ressort, vous voyez, genre ressort d'amortisseur de voiture ou de camion, un truc vraiment costaud, D'accord? Et vous avez sur la droite le premier wagonnet qui arrive avec une certaine vitesse, symbolisée par la flèche bleue qui va de la droite vers la gauche. Et à un moment, le ressort commence à être comprimé entre les deux wagonnets. Alors, comme le ressort est comprimé, eh bien, ça ralentit le premier wagonnet, mais ça commence à démarrer le deuxième. Alors, pourquoi ? Parce que quand le ressort s'écrase, eh bien, il fournit une force de freinage au premier wagonnet, et en même temps, il fournit une force opposée et de même intensité qui ne peut pas freiner le deuxième wagonnet qui est déjà à l'arrêt. Donc, au contraire, il accélère ce deuxième wagonnet. Un instant, je ferme une porte. Excusez-moi. Voilà. Donc, le deuxième wagonnet prend de la vitesse alors que le premier wagonnet ralentit. Il y en a un qui accélère, l'autre qui freine. Et il y a un principe qu'on discutera en détail la semaine prochaine, qui est le troisième principe de la dynamique de Newton, qui nous dit que action et réaction sont équivalentes, c'est-à-dire que et de signes opposés. Donc si le wagonnet exerce une force, le wagonnet 1 exerce une force sur le wagonnet 2, ben, le wagonnet 2 exerce une force opposée sur le wagonnet 1. Alors là, on peut parler plutôt du ressort. Hein. Le ressort, il exerce une force 1 sur le wagonnet 1 et une force 2 sur le wagonnet 2, et les deux forces sont opposées. Alors on verra d'où ça vient et toutes ces applications qui sont, par exemple, le moteur à réaction d'avion et de fusée, par exemple. Parce que justement, ça s'appelle réaction. Peut-être vous n'êtes jamais posé la question pourquoi ça s'appelle un avion en réaction. Réaction à quoi, hein ? Et bien en fait, c'est parce que ça utilise le principe action-réaction. C'est pour ça que ça s'appelle un avion à réaction. Et parce que un réacteur, il fonctionne comme ça. Alors, pour revenir à nos wagonnets, on comprend qu'en se comprimant, le ressort, qui est un ressort parfait hein, dans l'idée, là, va emmagasiner de l'énergie qui va restituer au deuxième wagonnet. Voilà. Donc, si le choc est élastique, c'est-à-dire que le ressort ne perd aucune énergie, eh bien, le premier wagonnet s'arrête et l'autre démarre avec la même vitesse. Slide suivant.
Alors, juste un point technique. Si, je ne sais pas si tu le vois, moi je le vois, il nous reste 6 minutes pour cette conférence. À un moment, on sera coupé, il faudra se...
Eh oui, okay. Eh oui, bien sûr. Ouais, ouais.
Voilà, il faut le savoir, c'est tout. Mmh. C'est dans 6 minutes. Mmh.
Merci. Donc, slide suivante. Alors, donc avec le carreau à la pétanque, c'est la même chose qui se passe. Hein, c'est que le rôle du ressort, n'y a pas de ressort entre deux boules de pétanque, mais en fait, il faut imaginer, enfin, c'est pas imaginer, c'est la réalité. Au moment du contact, il y a une pression qui est exercée par la boule 1 sur la boule 2 et par la boule 2 sur la boule 1. Comme on vient de dire, ce sont les mêmes hein, de signes opposés. Et donc ça va un petit peu déformer la boule. Alors comme la boule est très dure, ça la déforme à peine, quelques microns peut-être, mais c'est suffisant, et ça joue le rôle du ressort, parce que la boule veut reprendre sa place, sa forme initiale, et donc elle rebondit. Il y a un rebond. Et ça joue exactement le même rôle qu'un ressort. Donc slide suivante. Alors ça c'est juste que en fait on a reçu le... Je comprends, hein, c'est qu'on a reçu... l'envoi précédent et pas l'envoi suivant, donc c'est pour ça je devais enlever cette slide et je ne l'ai pas enlevée, donc slide suivante. Ça aussi, c'est pas la peine. Ça, c'est pas la peine non plus. Ça, c'est pas la peine, on en a parlé la semaine dernière. Donc rapidement, on revoit donc ce qui se passe avec Nadal. Donc première image, la balle est en l'air quasiment immobile et Nadal va frapper. Image suivante, voilà, Nadal va frapper, image suivante, Nadal frappe, et la balle part, comme le gobelet avec La casserole. Alors, le gobelet de la casserole, ça reproduit plutôt le mouvement d'un club de golf qui va taper sur une balle de golf. Mais c'est le même principe. Hein, la balle va deux fois plus vite, à peu près, que la raquette. Parce que la raquette est très dure, très tendue. La balle est très élastique. Et donc, pratiquement, on obtient le maximum théorique. Un petit peu moins, mais presque. Et on peut aller à la phase suivante encore. Alors, vous êtes sûr que c'est un petit peu moins parce qu'on entend le choc. Hein, si on entend le choc, on consomme de l'énergie pour fabriquer l'onde de choc. Donc il y a une petite perte au moins due au choc, au bruit du choc. Mais il y a aussi un petit peu de chaleur qui se produit avec la déformation du caoutchouc et des cordes de la raquette. Allez, slide suivante. Donc c'est là-dessus que je voulais conclure aujourd'hui. Donc ça veut dire que en fait j'aurais tenu mon pari de ne parler qu'une demi-heure et encore à peine. Mais après, on peut se reconnecter pour parler de la semaine prochaine et éventuellement de questions qui sont suscitées par ce que je viens de vous raconter. Donc là, je conclue là-dessus, c'est que avec une sonde planétaire, on utilise une ruse qui s'appelle la catapulte gravitationnelle. Alors, ici, la sonde est symbolisée petit et rouge et la planète grande et grise. Et donc, admettons que la sonde, on soit dans le référentiel de la sonde, donc la sonde est immobile et elle voit arriver une planète qui va lui passer à côté. Donc la gravitation va faire que l'attraction de gravitation va faire que la sonde va, en quelque sorte, entre guillemets, tomber vers la planète. Mais la planète passe tellement vite que la sonde n'a pas le temps de tomber. Par contre, elle change de direction et si l'attraction est très forte, elle change de direction, elle fait demi-tour et à ce moment-là, elle prend à la fois la vitesse de la planète plus, encore une fois, une deuxième fois la vitesse de la planète car le choc est élastique. Alors, c'est un choc un peu inattendu, un peu bizarre, puisque la force qui s'exerce entre les deux, ce n'est pas une répulsion comme dans un choc habituel. Hein, les deux objets se repoussent, ils ne veulent pas se pénétrer, donc c'est ça qui fait le choc. Là, c'est un choc attractif, mais ça marche de la même manière en fait. Sauf si, évidemment, les deux objets se touchent, et à ce moment-là, il y a des frottements et des pertes. Mais là, si ça passe à une certaine distance minimale, il n'y a pas de problème. Il y a un effet d'entraînement, et comme avec Nadal, la balle rouge, elle va deux fois plus vite que la raquette, qui cette fois-ci est une planète. Et la planète étant infiniment plus massive, en tout cas beaucoup, beaucoup, beaucoup plus massive que la sonde, la planète n'est pas ralentie de manière mesurable et observable. Voilà. Alors, j'ai écrit en dessous qu'on peut calculer un peu, mais ça, à ce moment-là, du coup, on verra ça après se reconnecter. Je vous propose de nous reconnecter. À ce moment-là, de quitter et de nous reconnecter. On fait ça? C'est bon? Allez, on fait ça. Moi, je suis là de nouveau. Et merci Michel. Super. Donc, qu'est-ce que je voulais avoir avec vous qu'on peut calculer un peu? Bon, c'est toujours intéressant de faire des petits calculs qu'on peut vérifier ensuite tranquillement si on veut, mais ici on peut parler simplement d'ordre de grandeur. Oh, qu'est-ce qui se passe?